Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30 précise, moment d'aller joindre Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marianne.
Parlons de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Ça commence dimanche et on a appris dans les dernières heures que la vente de bière serait finalement interdite autour des stades. Dans un premier temps, on avait mis certains paramètres, mais là, interdit autour des stades, dans le stade aussi. Quand t'es le commanditaire Budweiser, Guillaume, à 2 jours du début de l'événement, tu dois pas la trouver très drôle, là.
C'est pas génial pour le commanditaire, mais l'intérêt premier du commanditaire, imaginons Budweiser dans le cas précis, c'est pas combien de litres de bière vont être vendus sur les lieux de l'événement, c'est beaucoup plus l'association commerciale avec un événement dont les cotes d'écoute à la dernière réunion de la FIFA étaient de 3,5 milliards. Et les attentes pour cette fois-ci, c'est 5 milliards. Alors, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on puisse voir le logo et qu'il puisse permettre de la vente de bière bien au-delà des environs du stade, bien au-delà des frontières du Qatar. Alors ça, c'est, je dirais que c'est quelque chose pour lequel l'impact est pas gigantesque pour le commanditaire. Là où je pense il y aura une conséquence. Évidemment, pourquoi est-ce qu'un pays comme le Qatar, qui est pas exactement le champion des droits humains, essaie d'avoir des événements internationaux comme ça? C'est pour se montrer au monde, c'est pour s'inscrire dans la cour des grands, pour dire à l'ensemble des joueurs, venez chez moi, je veux faire des affaires. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'on décide unilatéralement, et il y a des frais à ça, de réécrire un morceau de contrat, de le faire à quelques jours d'avis. Et là, ça envoie le message, quand je fais des affaires avec le gouvernement du Qatar, c'est pas exactement faire des affaires comme aux États-Unis, ou au Canada, ou au Québec, ou en France. J'ai ici un gouvernement qui peut réécrire un bout de contrat juste parce qu'il le désire, comme ça. Alors ça envoie peut-être exactement le contraire du message qu'aurait souhaité inscrire le Qatar dans cette Coupe du Monde.
Ouais, c'est intéressant. Il y a aussi toute la question du boycott diplomatique. On le sait, le Bloc et le NPD voudraient que le Canada envoie un message fort, mais on comprend que ça pourrait être vu comme un affront aussi par le Qatar. Donc, il y a toute une question de diplomatie à travers ça, là.
C'est toujours très difficile. D'abord, ces décisions-là doivent se prendre bien avant la veille du déclenchement de l'événement. Alors là, là-dessus, il faut qu'on se donne, dans le fond, une charte ou des critères. On peut pas décider un peu à la gueule du client. Ici, je boycotte. Là, je le peux pas. On est allé en Chine. Ouais. Est-ce qu'on se permettrait d'aller au Qatar? Si je vais au Qatar, est-ce que j'irai en Arabie Saoudite, la Corée du Nord? Quels sont les critères pour dire ici c'est oui et ici c'est non? Et c'est normal qu'il y ait cette tension profonde. On pourrait boycotter et dire « vous n'existez pas ». S'il y a juste le Canada qui le fait, je suis pas certain de l'impact final. Ou encore de dire « ben, on va essayer de vous engager, mais comme on le fait là présentement, vous allez entendre parler du Qatar et de l'enjeu des droits humains et de son programme qui est presque de l'esclavage moderne, parce qu'on a énormément de travailleurs étrangers dont le permis de sortie du pays appartient à l'employeur. On va mettre ça sur la table et par cet engagement-là, ça créera une pression supplémentaire pour faire bouger l'aiguille. Mais évidemment que se taire, c'est la dernière chose. Et là-dessus, que le Qatar fasse ce genre d'événement-là et exige en plus que l'on ne dise rien, il y a peut-être des gens qui s'imaginent que le Qatar pense ça, mais ça fait longtemps qu'ils jouent dans ce film-là et ils s'attendent, bien sûr, ça vient avec le territoire, comme on dit.
On voit certains pays, des athlètes qui, pour montrer justement leur attachement aux valeurs, à l'ouverture par exemple, par rapport aux communautés LGBTQ+, et tout ça, vont porter brassards arc-en-ciel et tout ça. Donc, il y a quand même un mouvement qui s'inscrit tout en étant présent, là.
Et c'est là où c'est une question de degré, c'est toujours plus difficile. Il y aurait, et on l'imagine toujours, par une participation gentille, et la seule alternative à celle-là, c'est de pas y aller et de boycotter. Alors, est-ce que je peux y aller et dire, je vais vous parler de ce que j'ai vu là-bas? Il y a des grandes choses. Le Qatar est un petit pays de rien qui est devenu un joueur international gigantesque et massivement important parce que c'est un producteur de gaz naturel majeur. Mais en même temps, il a une structure de gouvernance, une structure de droits humains qui l'amène dans un autre siècle. Et si vous regardez, par exemple, les Émirats arabes unis qui sont à côté, ils sont probablement beaucoup plus en avance. Alors, dans cette péninsule, le Qatar n'est pas le dernier des derniers, mais certainement pas dans la chaise du leader. Alors, je pense que ça vaut la peine d'engager davantage. Et s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression. Et puis là-dessus, ben, s'il faut se tenir, s'il faut dire que le Qatar, ça fonctionne pas, la dernière fois, c'était en Russie. Et je comprends que la Russie, maintenant, c'est plus problématique, mais c'était pas exactement un exemple de droits humains il y a 4 ans, là.
Merci beaucoup, Guillaume. Bonne fin de semaine.
Au plaisir. C'est tout pour nous à Cube Radio. Merci d'avoir été à l'antenne. Salutations à Charlie Marchand et Marianne Bessette pour leur aide pour cette émission. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit au plaisir. À lundi.